Alors, nous continuons nos méditations dans le livre de Néhémie. Nous arrivons au chapitre 3. C'est la reconstruction de la muraille, avec beaucoup de détails. Et le titre qu'on peut donner, c'est « L'œuvre du Seigneur et le travail de nous tous ». Et c'est ce travail de chacun qui est mis en valeur, particulièrement dans ce chapitre. Éliashib, le grand prêtre, donc Néhémie 3. Éliashib, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, se mit au travail avec ses collègues, les sacrificateurs, et se chargèrent de la construction de la porte des brebis. Ils la consacrèrent, en posèrent les battants, puis ils continuèrent de réparer la muraille qu'ils consacrèrent jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la tour de Hananéel. À côté d'eux travaillaient les habitants de Jéricho. À leur suite, c'était Zaccour qui bâtissait. Les descendants de Sénat reconstruisirent, eux, la porte des poissons. Ils en firent la charpente, ils en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, Méremoth travaillait. À sa suite, c'était Meshulam, et plus loin, Tsadok. Venaient ensuite les habitants de Tekoa, mais leurs notables, leurs chefs, refusèrent de travailler sous les ordres d'un maître d'œuvre. Yoyada et Meshulam réparèrent la vieille porte. Ils en firent la charpente et posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillaient Melatia, le Gabonite, Yadon, le Méronotite et les gens de Gabaron et de Mitzpah, qui relevaient de la juridiction du gouverneur de la province à l'ouest de l'Euphrate. À côté d'eux travaillaient l'orfèvre Uziel et à côté de lui Anania, le parfumeur, ou ils restaurèrent Jérusalem jusqu'à l'endroit où la muraille s'élargit. À côté d'eux travaillait Réphaïa, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux, Yedaïa travaillait à la section située en face de sa maison. À sa suite venait Atouche, un second secteur de la muraille, ainsi que la tour des fours furent réparés par Malkia et par Yashub. À côté d'eux travaillait Shalum, chef de la moitié du district de Jérusalem, assisté de ses filles. Hanoun et les habitants de Zanoa réparèrent la porte de la vallée, ils la reconstruisirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. De plus, ils restaurèrent la muraille sur 500 mètres jusqu'à la porte du fumier. C'est Malkia, chef de district, qui répara la porte du fumier, il la rebâtit, en posa les battants, les verrous et les barres. Shalun, chef de district, répara la porte de la source après l'avoir reconstruite. Il la couvrit d'un toit et fixa les battants, les verrous et les barres. De plus, il releva la muraille de l'étang de l'Aqueduc près du jardin du roi jusqu'aux marches qui descendent à la cité de David. Au-delà, Néhémie, fils d'Azbouk, chef de la moitié du district, travaillait dans le secteur qui s'étendait jusqu'en face du cimetière de David et allait jusqu'au réservoir artificiel et jusqu'à la caserne. Au-delà, travaillaient des Lévites, Réhum, fils d'Azbouk, puis à côté de lui, Hachabia, chef de la moitié du district. Au-delà travaillaient leurs collègues, Banaï, chef de l'autre moitié du district, et à sa suite, Ézer, réparait un second secteur situé en face de la moitié de l'arsenal, à l'endroit où la muraille fait saillie. Au-delà, Baruch réparait avec ardeur une autre section, depuis l'angle jusqu'à l'entrée de la maison d'Éliashib, le grand prêtre. Au-delà, Méremoth réparait un autre secteur, depuis l'entrée de la maison d'Éliashib jusqu'à son extrémité. Au-delà, travaillaient les prêtres et sacrificateurs qui habitaient les plaines environnantes. Au-delà, Benjamin et Hachoub réparaient la muraille en face de leur maison, à côté de Azaria, travaillait à côté de sa maison. Au-delà, Binoui renforcer un autre secteur allant de la maison d'Azaria jusqu'à l'angle en saillie de la muraille. Puis c'était Palal qui travaillait devant la saillie et la tour supérieure qui domine le palais royal et touche à la cour de la prison et au-delà, Pedaya. Les desservants du temple s'étaient établis sur la colline de l'Ophel, jusqu'en face de la porte des eaux à l'est et de la tour en saillie. Les gens de Tekoa travaillaient à la section suivante, depuis la grande tour en saillie jusqu'à la muraille de la colline de l'Ophel. À partir de la portée de chevaux, les prêtres et sacrificateurs travaillaient chacun en face de sa maison. Au-delà, Tsadok réparait devant sa maison et ensuite chez Maïa, gardien de la porte de l'Orient. Anania et Hanoun réparèrent le secteur suivant et au-delà, Meshulam travaillait en face de sa demeure. Puis Malkia, de la corporation des orfèvres, travaillait jusqu'aux maisons des desservants du temple et des marchands vis-à-vis de la porte de la surveillance et jusqu'au poste de guet situé en haut de l'angle de la muraille. Les orfèvres et les marchands réparèrent la muraille entre ce poste de l'angle et la porte des brebis. Prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ton esprit pour que nous comprenions mieux et obéissions véritablement à ta parole de vérité. Ouvre nos cœurs afin que nous aimions ce que tu commandes et désirions ce que tu promets. Libère-nous de tout orgueil égoïste, de toute distraction qui nous éloigne de toi, afin que nous soyons remplis des grâces promises. En Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a bien des ouvrages qui montrent, qui présentent, qui donnent des recettes pour arriver au succès. On trouve ça sur les rayons des supermarchés. Et pour arriver au succès dans le travail, dans d'autres domaines, voilà, il y a pléthore d'ouvrages. Et nous pouvons appliquer parfois certaines de ces recettes au travail en Église. Sur un plan humain, bien suivi, avec discernement, des choses peuvent être très utiles. Mais voilà, nous ne sommes pas dans un travail séculier. Nous sommes dans le champ de Dieu. Et si les lois de nos sociétés peuvent être utiles pour le travail spirituel, nous devons toujours revenir à la parole de Dieu et y découvrir la manière dont Dieu nous invite à fonctionner dans son champ. C'est ce que nous essayons de dégager donc du livre de Néhémie depuis plusieurs semaines. Alors dans la première prédication, nous avons mis en relief la nécessité de discerner les vrais problèmes que nous pouvons rencontrer dans la vie de l'Église, afin de pouvoir y apporter des solutions efficaces. C'était le début du chapitre 1. Puis, dans la deuxième prédication, nous avons insisté sur l'importance de la prière qui est la source de force et d'inspiration face aux problèmes. C'était la suite de Néhémie 1. Dans la troisième prédication, nous avons insisté sur la dynamique des relations interpersonnelles. L'importance de la loyauté, du tact, les uns à l'égard des autres, début du chapitre 2. Et la quatrième prédication nous a exhorté la semaine passée sur l'importance de savoir nous motiver les uns les autres. Mais on a bien insisté sur le fait que la principale source de motivation à laquelle Néhémie nous invite aujourd'hui se trouve dans la fidélité de Dieu, la bonne main. Ne mon Dieu était sur moi. Il l'a dit à deux reprises dans le chapitre 2, verset 8 et verset 18. Alors ce chapitre 3 que nous avons lu ce matin nous apprend que l'œuvre du Seigneur est le travail de tous, que chacun, avec le don qu'il a reçu, la capacité qu'il a, s'engage, occupe son poste et travaille ensemble avec les autres. C'est ce que Néhémie et ceux qui ont travaillé à la restauration de la ville de Jérusalem ont compris. Et si nous appliquons leur exemple à notre travail en Église, à Rony, nous sommes certains de faire l'œuvre du Seigneur et nous le ferons vraiment pour sa gloire. L'Église réussira sa mission si nous vivons nos engagements ensemble, les uns avec les autres. Chacun à son poste, fidèlement à son poste, mais dans la communion avec les autres et avec surtout notre Maître, le Seigneur Jésus. Alors ce chapitre est facile, peut-être pas à lire, mais il est facile à suivre. Chaque paragraphe est construit autour d'une des portes de la ville et on fait ainsi le tour. Cependant, le message du chapitre n'est pas facile à comprendre forcément. On est tenté d'ignorer pour cela le chapitre. On est tenté de passer au chapitre suivant, deux chapitres suivants qui sont très intéressants. Et surtout à cause de la longue liste de noms et de répétitions qui s'y trouvent, où on va prendre quelques versets à droite et à gauche. Et pourtant, nous pouvons y trouver des leçons pour nous aider à réaliser l'œuvre du Seigneur de manière à pouvoir affirmer avec le psalmiste dans le psaume 45, verset 1, « Mon œuvre est pour le roi ». C'est bien ça notre motivation. Alors, quelles sont ces leçons qui vont nous aider à faire notre œuvre pour le roi? Alors, tout d'abord, le texte insiste, la première leçon que nous découvrons dans ce chapitre, c'est que chacun doit être trouvé fidèle. Alors, on trouve ça dans cette façon de parler en 1 Corinthiens 4, 2. Paul dit, il dit que ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et donc, ce qu'on découvre dans ce chapitre, c'est ça, que chacun soit trouvé fidèle, là où le Seigneur l'appelle à le servir. Et dans le texte de Néhémie, cette leçon se trouve dans la répétition. Et on a bien entendu cette répétition de plusieurs mots. À côté de lui, on l'a répété souvent. À côté d'eux, chacun à sa place, à sa porte, à côté de l'autre. Qui est à sa place, voilà. Mais c'est des choses qu'on pourrait souligner avec des couleurs dans la Bible et on verrait que c'est vraiment le leitmotiv, comme on dit aujourd'hui. Avec l'aide de Néhémie, chaque personne, chaque groupe savait ce qu'il avait à faire et où il devait travailler. Et chaque personne avait donc conscience de la responsabilité qui lui incombait. Ainsi que ce que le Seigneur attendait de lui, pas du voisin à droite, pas du voisin à gauche, mais de lui. Mais savoir quelle est sa place dans le service chrétien suppose qu'on ait aussi la volonté d'y participer et de participer à ce que fait, ce qui est fait au nom du Seigneur. Et ça suppose aussi qu'on sait quelle capacité, quel don on a reçu du Seigneur et qu'on sait comment on est appelé à mettre ces choses au service du corps du Christ. En tant que chrétien, soumis à la parole de Dieu, nous croyons que chaque chrétien a reçu du Seigneur un don de capacité afin de servir comme le Seigneur le veut. Mais quand je parle de don, je parle de grâce, c'est le sens du mot don dans le Nouveau Testament. Je parle de la grâce que Dieu fait à chacun de le servir dans tel ou tel secteur de la vie de la communauté chrétienne, avec les moyens que lui-même, le Seigneur, donne fort heureusement. On se réjouit toujours quand on voit quelqu'un venir nous voir en disant « je veux faire ceci, je veux faire cela ». Personne pour l'instant ne le fait. Je veux bien le faire si vous le voulez. C'est toujours une grande joie d'entendre ça. Mais il faut aussi ajouter autre chose. Il n'y a pas que les spécialistes du bâtiment qui travaillaient dans ce chapitre. Ça, c'est très important. Il y a des bijoutiers, versets 31-32. Il y a donc ce qu'on appelle des parfumeurs. Ce sont des pharmaciens, certainement. Parce que la pharmacie consistait en herbes odorantes, voilà, médicinales, avec une forte odeur. Donc, il y avait des bijoutiers, des pharmaciens, des marchands, des responsables religieux aussi, quelques-uns. Bien sûr, s'il y a dans l'œuvre de Dieu des besoins pour lesquels nous sommes qualifiés, tant mieux, et nous devons nous y engager. Mais l'absence de tâches relevant particulièrement de notre compétence ne doit pas être une excuse pour ne rien faire. Tout ce que ta main trouve à faire, avec la force que tu as, fais-le. Et Dieu a besoin de nous, il y a des tâches à notre portée, même si nous n'avons pas la qualification forcément au départ. Et c'est des tâches qui sont à notre portée, quel que soit notre métier. Hein. Et on peut toujours être formé pour de nouvelles tâches. Hein. Et c'est important de le rappeler. Hein. C'est l'enthousiasme, c'est l'engagement, c'est la volonté de servir qu'il faut à ce moment-là. Hein. Tout ça ne manquait pas à ces travailleurs sur la muraille. Alors, la deuxième leçon que nous tirons du chapitre, il s'agit d'une œuvre de coopération, que chacun travaille au bien de l'ensemble. Hein, c'est très fort dans ce chapitre. Chacun à sa porte, mais hein, pas pour sa porte seulement. Chacun à sa porte dans une communion totale, hein, en coopération avec les autres. Hein. Et c'est une œuvre d'ensemble. Et c'est ainsi que toutes les portes et toute la muraille a pu être relevée en même temps. Une œuvre pour que l'ensemble soit bien édifié. Et dans ce chapitre 3 du livre de Néhémie, on voit des hommes venus d'endroits différents, appartenant à des milieux différents, qui ont pourtant travaillé à la muraille. On y trouve des sacrificateurs, comme j'ai dit, des lévites, des dirigeants, mais aussi des gens du peuple, des portiers et des gardes, des fermiers et des orfèvres, des pharmaciens, comme j'ai dit, des commerçants, des serviteurs du temple, et aussi, il faut le souligner, le texte le souligne, des femmes. Hein. Et donc on note la participation des filles de Shalloum. Nous aurions pensé qu'un tel chantier excluait les femmes et les filles. Il n'en est rien. Hein. En dépit de la difficulté physique, elles se sont engagées. C'est que la reconstruction des murailles était une question d'importance nationale pour tous. Et donc tous veulent apporter leur contribution et le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'elles ont fait avec les autres. Dieu, en tout cas, ne fait pas de distinction selon l'origine, la position sociale. Dans l'Église aussi, nous sommes tous à l'œuvre avec le Seigneur, quelle que soit la richesse, la notoriété, les relations. Il y a la reconstruction, la construction de son Église est une question tellement importante que ça dépasse tous les préjugés, toutes les choses qui nous séparent les uns des autres. Il y a des hommes aussi venus d'endroits différents. Il y a des hommes et des femmes venus de Jéricho. C'est dans l'Oasis, dans le désert, de Tekoa, puis de Gabaon. Alors, si on lit le livre de Josué, Gabaon, c'est quand même pas grand-chose. C'est des gens qui pouvaient être méprisés par une partie d'Israël et qui pourtant s'engagent bénévolement avec les autres, comme les autres. Et des gens de Mitzpah, ça c'est encore autre chose, de Zanoa, de Beth-Akerem, de Beth-Sour, de Keïla, il y a beaucoup de différences derrière tous ces noms. Mais pour toutes ces personnes, refaire les fortifications de Jérusalem ne leur apportait, on va dire, en réalité pas grand-chose. Ça se passait en dehors de leur village, en dehors de leur ville, à Jérusalem. Ils auraient très bien pu continuer à s'occuper de leurs propres affaires et dire « moi je m'occupe de mon village et je reste dans ma ville, dans mon village » au lieu de s'engager donc dans un travail peu profitable dans un premier temps à Jérusalem. Et pourtant, ils ne pouvaient pas faire ainsi. À Jérusalem, il y avait le temple qui était commun à tous. Il y avait leurs frères et sœurs. Et donc, c'est par amour pour leur Dieu, pour leur pays, pour leur peuple qu'ils s'engageaient et qu'ils dépassaient leurs particularités de village. Et on ne pouvait pas prier les psaumes sans penser à Jérusalem, sans mettre Jérusalem en avant, et le temple. Psaume 137, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je mets Jérusalem au-dessus de toute autre joie. Le psaume 122 qu'il récitait aussi, souvent, demandez la paix de Jérusalem, qui vit tranquille. Ceux qui t'aiment, que la paix soit dans tes remparts, la tranquillité dans tes donjons. À cause de mes sœurs, de mes frères et de mes amis, je recherche ton bonheur. À cause de la maison de l'Éternel, mon Dieu, je dirai donc que la paix soit en toi. On ne pouvait pas prier ces prières à longueur de temps sans s'engager quand le moment était venu au bien de Jérusalem. Alors, dans la liste que nous observons, Nous observons qu'il se trouvait également des hommes appartenant à diverses corporations. Hein. On dirait aujourd'hui des syndicats, hein, les orfèvres, etc. Si ces corporations ressemblaient à celles qu'on connaît, hein, ces hommes auraient pu faire sécession à un moment donné, faire pression pour obtenir une place privilégiée ou telle autre chose. Hein. Ou ils auraient pu se bâtir avec un souci catégoriel, comme on dit. Hein. Mais il n'en a pas été le cas, ça n'a pas été le cas. Quelle est donc la force qui les mobilisait et les motivait à travailler au-delà de leur intérêt personnel du moment? Alors certes, on va dire, il y a Néhémie. Hein. Néhémie était pour quelque chose dans tout ça. Hein. Il savait convaincre les gens de donner, non seulement de leur temps, mais il savait convaincre chacun de faire de son mieux. Tous ces gens, sans exception, travaillaient aussi à leur plein gré, hein, parce qu'ils avaient du cœur à l'ouvrage. Hein. Ainsi, on voit que les Tekoïtes ont participé, on voit ça au verset 5, ont participé au travail alors que certains nobles, certains chefs ne voulaient pas parmi eux. Ça nous rappelle que donc Dieu veut que notre service soit volontaire. Ces gens étaient volontaires, Dieu désire notre service. Mais il respecte notre liberté. Hein. Alors il y aura toujours des gens qui vont se trouver trop sages ou trop importants pour travailler dur avec les autres sous la direction fraternelle des autres. Souvent la meilleure chose à faire, c'est ce qu'ils ont fait, c'est de les ignorer quelque part, hein, et c'est d'aller de l'avant. Hein. Et donc ça n'a pas empêché tous ces gens d'aller de l'avant. Donc, Dieu veut que notre service soit volontaire, Dieu désire notre service, mais il respecte notre liberté. Mais la première source de motivation de ces hommes, ce n'était pas Néhémie, ce n'était pas le cœur à l'ouvrage qu'ils avaient pour la plupart, c'était leur motivation se trouvait dans leur amour, on l'a dit, pour leur Dieu, pour leur pays, pour leur peuple. Et les volontaires donc de Néhémie sont un excellent exemple pour nous à cet égard. Ils ont tous travaillé ensemble à la construction de la muraille. Venus d'horizons différents, ils ont su se rassembler sous la conduite de Néhémie pour un seul et même objectif, bâtir la maison de Dieu, donner gage et sécurité au peuple de Dieu pour qu'il avance. Alors, il y a une troisième chose, peut-être. Même en Église, j'ai marqué, la personne humaine est plus importante que le ministère à accomplir. Nous vivons dans une société très, très individualiste. Et on le voit à propos de la gestion de la pandémie actuellement. Les magasins où nous allons faire nos courses, chaque semaine, s'intéressent bien davantage à notre carte bancaire qu'à la qualité et à la fiabilité des produits qu'ils nous proposent. Pour le service des impôts, nous ne sommes que des contribuables, des numéros, pour ainsi dire. Au travail, c'est la même chose pour la plupart d'entre vous qui se rendraient compte de votre absence si... à moins que les chiffres ne soient pas parvenus au bon endroit. Nous sommes des numéros impersonnels. Et dans ce chapitre, Néhémie nous montre d'une manière implicite combien il est nécessaire de se connaître et de se soucier les uns des autres. On a l'impression qu'il connaissait tout le monde par son nom, mais pas seulement par son nom. Par son nom complet, que je n'ai pas lu, vous avez remarqué. J'ai seulement donné le nom et je n'ai pas dit « fils d'eux ». Mais c'est le nom complet. Et donc, il connaissait chacun par le nom et le patronyme, on va dire. On a l'impression qu'il connaissait chaque travailleur par son nom, qu'il savait parfaitement à quel endroit précis chacun se trouvait et ce qu'il faisait, que ce soit les petits comme les grands, les gens de Jérusalem, comme ceux de la campagne, peu importe, tous pareils à ses yeux. On a le sentiment donc qu'il les traitait comme des personnes et non pas comme des choses. Et ils avaient de la valeur à ses yeux. Et donc, dans le monde oriental, et le nom, le patronyme complet, être fils de, c'est tout un programme. Et donc, c'est vraiment honorer quelqu'un, de le citer avec son nom complet. Et donc, pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'accomplir une œuvre pour que les générations à venir puissent se souvenir de lui. Il voulait accomplir une œuvre, certes, mais il voulait aussi que l'œuvre accomplie puisse grandir chaque personne qui y avait participé. Il voulait que chacun ait le sentiment d'avoir été utile à l'ensemble. Il les a donc mentionnés, chacun par son nom. Et c'est ainsi qu'il faut lire toutes ces listes, ici comme ailleurs dans l'Ancien Testament. Alors, il faut pour conclure que tous les membres d'Église s'engagent, c'est ce que dit ce chapitre, pour que le corps du Christ fonctionne efficacement. Paul dit la même chose en 1 Corinthiens chapitre 12, ça serait le passage parallèle dans le Nouveau Testament. Chacun à sa place, mais en coordination avec les autres, dans le même but commun, édifier le corps du Christ, le faire fonctionner à la gloire du chef de l'Église, Jésus. Alors quel rôle y jouons-nous dans ce corps du Christ? Comment pouvons-nous servir le Seigneur, participer activement à son service, que ce soit en donnant de nous-mêmes, en donnant de notre temps, en donnant de nos talents, oui, en donnant de notre argent, etc. Voilà les bonnes questions qu'on peut se poser. On pourrait dire aussi que, comme Néhémie, nous avons des différentes portes. Comme au temps de Néhémie à Jérusalem, nous avons différentes portes dans une vie d'église. Ces portes sont les différents rassemblements, groupes que nous pouvons avoir dans une église. Alors, il y a plus ou moins de groupes suivant les églises, mais il y a un groupe de jeunes, il y a un groupe de dames, et des fois il y a d'autres groupes. Mais tous ceux qui fréquentent ces groupes se connaissent, s'appellent. Quand quelque chose arrive à l'un, les autres sont au courant, surtout aujourd'hui. On est au courant à la demi-seconde près, avec les moyens modernes. S'il faut prier, il prie. S'il faut visiter, il visite. S'il faut aider, il aide, etc. Chacun se sent utile dans la vie de la communauté, chacun prend de la valeur aux yeux des autres. Et en plus de tous ces groupes, surtout quand il n'y a pas de Covid, puisque tout est perturbé aujourd'hui, mais en plus de tout ça, nous avons également les études bibliques, les réunions de prière, les rassemblements, les repas fraternels, qui sont des occasions de communion pour tous ceux qui veulent fraterniser agréablement avec d'autres. Alors, les repas fraternels ne sont pas faits simplement pour se remplir la panse, ne sont pas faits pour ne pas faire à manger à la maison, mais ils sont faits pour se rapprocher d'autres personnes qu'on ne rencontrerait pas comme ça si facilement. C'est ce que faisait donc la communauté chrétienne des premiers siècles. Les chrétiens se fortifiaient mutuellement dans ces occasions. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la fraction du pain. C'est bon de rappeler que l'Église réussit sa mission si nous vivons nos engagements ensemble, les uns avec les autres, les uns avec les autres. Il y a des chansons qui nous viennent comme ça. Mais c'est beaucoup plus qu'une chanson qu'on chante qui est entraînante. C'est tout un programme de vie. Chacun avec les autres, chacun à son poste, dans la communion les uns avec les autres. Et surtout avec, chacun avec, dans la communion avec notre maître, le Seigneur Jésus, le chef de l'Église, plus grand que Néhémie. C'est vers lui que nous regardons. C'est lui aussi la source de notre motivation, de notre force. C'est dans sa communion que nous trouvons toujours à nouveau la force pour avancer et l'amour de son Église pour lequel il a donné sa vie. Amen.